Donc en fait, je vais juste appeler Monsieur Cotta à venir au pupitre, qui va nous présenter la politique menée par l'Union européenne en faveur de l'open access. On sait que l'Union européenne soutient très fortement ces politiques avec la mise en œuvre de programmes favorisant le développement des publications librement accessibles et couvre tout un ensemble de domaines. Et je pense que c'est un moteur sur lequel on s'appuie en France pour avancer dans la mise en œuvre de ces politiques.
Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir de pouvoir venir présenter un petit peu l'état de nos réflexions à Bruxelles sur Open Science, qui existe déjà depuis un certain temps, qui ont d'ailleurs commencé par tout le développement, toute une politique concernant le Open Access, et qu'ont évolué et qui actuellement ont une vision beaucoup plus large que je vais essayer de vous transmettre. D'abord, un mot sur le... D'abord, je tiens à m'excuser parce que les transparents sont en anglais, parce que je réutilise des transparents d'autres présentations de gauche et de droite, mais je vais essayer de faire la présentation en français. D'abord, un mot sur le contexte politique global. Comme vous savez, la commission a changé. Donc, il y a une nouvelle commission qui a commencé en octobre dernier. Et les questions liées à la science ouverte et à Open Access en particulier, actuellement, sont du ressort de trois commissaires différents. Un, c'est le vice-président Andrus Ansip, qui est le responsable pour ce qu'on appelle le Digital Single Market. Et puis, il y a deux commissaires, Günther Oettinger, qui est le commissaire pour l'économie numérique et la société numérique, et Carlos Moedas, qui est le commissaire pour la recherche et l'innovation. Toute notre réflexion à propos d'Open Science se place dans un contexte politique qui est le Digital Single Market. Le Digital Single Market sera un espace dans lequel les citoyens et les businesses pourront accéder et exercer des activités online sous des conditions, dans un contexte, je dirais, de fair competition. Avec le plus haut degré possible, évidemment, de protection de données et de consommateurs, et tout cela dans une perspective pan-européenne, donc irrespective de la nationalité ou de l'endroit de résidence des citoyens. Ce que je rappelle n'est pas le cas aujourd'hui. Un exemple concret étant le geo-blocking, je ne sais pas comment on dit en français, que la plupart d'entre nous qui achètent sur Internet sont parfois confrontés à avoir dans des sites allemands ou néerlandais le même article à un prix plus bas, mais on est obligé d'acheter à travers de certaines filières des grands acteurs du commerce électronique. Le Digital Single Market est donc l'abolition de toutes ces frontières et la construction de ce qu'on appelle une économie basée sur les données et la connaissance. Et c'est là qui rentre Open Science, c'est là qui rentre la valeur des données scientifiques dans l'économie globale. Le Digital Single Market est une des 10 priorités du président de la Commission. Et dans la stratégie du Digital Single Market, la science ouverte est ce qu'on appelle le free flow of data, qui est la libre circulation des données, donc la composante électronique du marché unique, y compris évidemment les données scientifiques, sont des pièces maîtresses dans la construction du Digital Single Market. Aussi, la réforme du droit d'auteur, y compris text and data mining. Donc, ce que nous comprenons par Open Science est surtout un processus de transformation et d'ouverture de la science, de la recherche et aussi de l'innovation qui est rendu possible par les technologies de l'information et de la communication. L'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est tout le mouvement Open Access. Le mouvement Open Access, si on n'était pas dans un monde digital, n'aurait pas de sens. Ça veut dire, si on était dans un monde où les rotatives devaient continuer à imprimer les papiers, évidemment qu'il y aurait des coûts liés à la publication et donc l'idée de open access serait beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. Le monde du numérique nous permet d'envisager d'autres formes de communication scientifique, une d'entre elles étant le open access. L'objectif est de faire la science plus efficace, un petit clin d'œil à Text and Data Mining, évidemment, plus transparente et plus interdisciplinaire, et de permettre un impact social et sociétal beaucoup plus large, et donc de favoriser l'innovation. Donc ça, c'est, je dirais, la définition entre nous de science ouverte. Donc science ouverte est un processus qui est un processus qui nous, en tant que fonctionnaires, on essaye de catalyser. Bon, dans notre vision de Open Science, je vais vous montrer ce slide. Il peut paraître compliqué une fois que tout est allumé, mais je vais essayer d'aller lentement et de montrer les différents blocs. C'est un petit peu comme en Lego, donc, où il y a des pièces centrales, par exemple. La première, c'est les infrastructures électroniques pour le Open Science. On a une autre composante qui est une composante, et là, dans le premier bloc, on est dans un bloc purement technique, purement de base. Ça veut dire que c'est l'infrastructure sur laquelle on va construire un édifice qui s'appelle Open Science. On a après une composante politique qui est l'accès ouvert aux résultats de la science et aux processus scientifiques. On a une dimension qu'on ne peut pas oublier, qui est la dimension d'évidence pour faire de la politique, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, « global system science ». Et ça, c'est une composante très, très importante parce que, dans le monde, il y a plein de façons de faire de la politique. Il n'y a qu'un basé sur l'évidence. Tous les autres sont basés sur d'autres choses. Et les politiciens sont habitués à faire de la politique sans être basés sur l'évidence. Parfois, l'évidence peut même être gênante dans le processus de prise de décision. Mais c'est un bloc très important si on veut approcher les citoyens des policy makers. Et puis, on a la dimension citoyenne. Donc, on a la dimension du rôle du citoyen et de l'engagement du citoyen dans le processus scientifique. On a quelques exemples qui sont tout à fait anecdotiques, comme Galaxy Zoo, où les citoyens ont été appelés à examiner des photos, des télescopes. Mais on manque de processus, on manque de méthodologie. Et une des défis, ça sera celui-là. L'autre, c'est le crowdsourcing. Crowdsourcing pour, par exemple, la définition des stratégies de recherche, la définition des budgets de recherche. Où est-ce que le citoyen estime qu'un gouvernement doit faire un effort d'investissement dans la recherche. Et il y a pas mal de questions éthiques, de questions d'ordre politique qui tournent autour de la participation du citoyen dans le processus scientifique. Maintenant, ces quatre blocs de base sur lesquels on base notre vision ont des défis qui sont particuliers. Par exemple, quand on parle d'infrastructure électronique, on peut parler aussi de open access. On peut aussi parler d'open access, mais dans le sens d'accès à l'infrastructure qui doit être ouvert et qui aujourd'hui, certaines infrastructures sont plus fermées que d'autres, disons-le comme ça. Et nous, on s'est mis un grand défi qui est le European Open Science Cloud, qui est une sorte de projet de l'homme dans la Lune qui vise à fournir une infrastructure à la communauté scientifique qui va au-delà des disciplines et qui part du principe qu'actuellement, on a une situation qui est complètement fragmentée. D'un côté, on a les fragmentations nationales. Il y a le gouvernement de l'État membre X ou de l'État membre Y qui développe sa propre infrastructure. De l'autre côté, on a une fragmentation qui est orthogonale à ceci, qui est la fragmentation des disciplines scientifiques, qui vient s'ajouter par au-dessus. L'idée ici, c'est de dire, pour faire de la science, on a besoin de grandes infrastructures de computing, ce qu'on appelle high-performance computing ou high-throughput computing. On a besoin d'infrastructures de ce type-là. Et on a besoin de grandes infrastructures aussi, de stockage de données, de transport de données, de data storing. et data curation et tout ce qui tourne autour du monde des données. Et c'est là qu'apparaît la notion de cloud, parce qu'à la fin, on n'a pas... Je ne sais pas comment on dit cloud computing en français, en fait. J'ai vu un jour informatique dématérialisée, mais je n'aime pas du tout. Hein. Mais bon, parce que toute l'informatique est par définition dématérialisée, non, c'est virtuel, donc voilà. Donc, l'idée de pouvoir avoir une infrastructure qui est partagée avec un modèle, un business model derrière, qui est le business model... Qui met de côté l'investissement dans l'infrastructure pour que l'infrastructure soit payée en fonction de son utilisation, parce que c'est ça le modèle du cloud, est quand même une idée qui nous tient à cœur. Et je crois pouvoir annoncer qu'on est en train de travailler dans une communication au Conseil et au Parlement, peut-être vers la fin de l'année, peut-être début d'année prochaine, où on met sur papier toutes nos idées pour l'European Open Science Cloud. L'idée aussi étant d'avoir une grande fédération de financiers pour une telle initiative, puisqu'on parle de milliards d'euros, et d'avoir donc une structure de gouvernance de ce European Open Science Cloud qui serait ouverte aussi à l'administration publique. Et là, c'est très curieux parce que quand je parle d'administration publique, je ne suis pas en train de revendiquer qu'il faut un cloud ou une infrastructure de high-performance computing pour faire des cartes d'identité et des passeports. Ce n'est pas ça du tout. L'administration publique, si le rôle est juste les services de gouvernement électronique, n'a pas besoin de ça. Par contre, lié au quatrième bloc d'avoir des données et du traitement de données qui permettent de prendre certaines décisions sur des dossiers comme le changement climatique, comme au niveau d'une ville, la planification de la mobilité dans une ville. Là, on rentre dans des domaines où il y en a un besoin d'infrastructures de calcul et d'infrastructures de stockage et de transport de données. Pour le open access, on a un nombre que vous connaissez bien de défis à soulever. Un d'entre eux, que j'ai mis comme premier dans mon transparent, parce qu'aujourd'hui même, on a un workshop à Bruxelles sur ce sujet-là, c'est les modèles, les business models alternatifs pour la publication en open access. Il n'y a pas seulement le gold, il n'y a pas seulement le green, il y a toute une flopée de méthodes qui sont émergentes. Et aujourd'hui, à ce moment même, à Bruxelles, on est en train de débattre avec les gens qui les proposent. L'idée n'étant pas de, à la fin de la journée, dire ça, c'est le alternative business model. Le modèle, c'est de dire certaines disciplines sont en train de suivre certaines approches, d'autres, etc. On a toujours la question qui est ouverte de l'accès ouvert aux données scientifiques, y compris aux métadonnées qui leur sont associées. On a un pilote dans Horizon 2020, dont je toucherai un mot plus tard. Après, on peut penser que le open access, qui touche d'abord les publications, puis les données, doit toucher aussi les méthodes, les algorithmes et les outils. Et là, on est plein dans le monde du open source software. Et ce pont entre open data, open source et open access to publications est en train de se former d'une façon très claire. On a toutes les questions liées à text and data mining et à la réforme du copyright où, comme vous savez, il y a plusieurs solutions dans la table et le choix de notre commissaire, puisque c'est le commissaire Oettinger qui va présenter vers la fin de l'année, son projet de révision du copyright couvrira évidemment text and data mining et nous, on essaye de promouvoir l'exception pour la recherche commerciale et non commerciale. Pourquoi non commerciale ? Pourquoi commercial, pardon, non commercial, ça coule de source. Pourquoi commercial? Parce que c'est très compliqué de dire à un élève de doctorat qui d'ailleurs, on est en train de le pousser à créer sa start-up, qu'un jour, il peut faire du text and data mining parce qu'il a la casquette d'élève doctorat et le lendemain, il ne peut pas parce qu'il a mis la casquette de PDG et unique employé la plupart du temps de sa start-up. Donc, les milieux, il y a d'autres disciplines comme les sciences du vivant, le biomédical, où les deux mondes, le monde commercial et le monde non commercial, se touchent. Et c'est impossible de vouloir aller dans cette ligne-là. Je vous dis ça parce que mon commissaire m'a donné la liberté de parole jusqu'au moment où il prend la décision. Peut-être si on me parlait dans quelques temps, je serais un peu moins enthousiaste. Mais bon, on verra bien quelle est la direction dans laquelle on va. Et puis, on a toutes les questions de protection des données, qui d'un côté sont des questions fondamentales de citoyenneté, de privacité, de vie privée, notamment dans le domaine médical. Mais de l'autre côté, il y a la notion d'intérêt public. Dans quelle mesure est-ce que la protection des données interfère avec l'intérêt public? Exemple, si mes données médicaux vont être utilisées pour développer un vaccin qui va servir à un large spectre de maladies, de quel droit est-ce que moi je devais l'interdire? Donc il y a toutes des questions qui sont éthiques, qui sont politiques et qui sont actuellement sur la table. En ce qui concerne le scientific evidence-based policy making, notre idée ici, c'est de dire que le citoyen perd petit à petit, ou a déjà perdu beaucoup, de son lien avec le monde politique. À voir les taux d'absentéisme dans les élections un peu partout en Europe, et alors à l'échelle européenne, c'est dramatique. Et il faut trouver un moyen, et je pense qu'utiliser la science comme moyen pour lier le citoyen au monde politique est une possibilité envisageable et c'est ce qu'on essaye de faire. De l'autre côté, il y a une telle quantité de données qui tournent autour des grands problèmes sociétaux qu'il faut investir dans des méthodes de data analytics pour le monde de big data, etc. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas seulement une approche d'aller prêcher la bonne parole dans les réunions des partis politiques. Il y a une dimension technique derrière qu'on est aussi en train d'adresser. Et finalement, le dernier défi, c'est le Science Advisory Mechanism, qui est le mécanisme que la Commission a mis en place. Vous vous rappelez que dans la Commission précédente, il y avait la notion de Chief Scientific Advisor du président, qui a été, je dirais, annulée par la nouvelle Commission. Et à la place a été créé ce Science Advisory Mechanism, qui est un groupe de scientifiques qui va regarder les différents projets que la Commission est en train de mettre sur la table et du point de vue scientifique, voir s'il y a une base d'évidence, s'il n'y en a pas, et donner du conseil aux différents commissaires. Du point de vue du citoyen, notre réflexion va dans deux directions. La première, c'est de dire que tout ce qui tourne autour de citizen science jusqu'à présent, il y a des exemples qui ont fonctionné, mais sont des exemples isolés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de préoccupation d'éthique dans le processus. Et donc, on essaye de réfléchir à comment favoriser l'émergence de ces méthodes qui font le citoyen participer dans un processus scientifique. Le but n'étant évidemment pas de dire n'importe qui peut être un scientifique, il ne faut pas aller à l'université. Ce n'est pas ça du tout. Le but, c'est d'utiliser le citoyen là où il peut contribuer dans l'ensemble d'un processus. L'autre, c'est les nouvelles façons de financer la recherche. Actuellement, si on veut décrire les moyens de financer la recherche, tout se passe avec une grande main qui rentre dans votre poche, qui vous prend l'argent, ça s'appelle taxation, hein, et qui dit, vous savez, moi je vais donner cet argent aux scientifiques parce qu'ils savent beaucoup mieux que vous, le propriétaire de la poche de laquelle sort l'argent, comment il faut le dépenser. Très honnêtement, je pense que quand la poche en question sera la poche de la génération Facebook, ça veut dire les gens qui sont habitués à donner leur avis indépendamment du degré de connaissance qu'ils ont sur le sujet. Quand ça sera le cas, les gens ne vont pas laisser la main rentrer dans la poche et sortir avec l'argent aussi facilement que ça. Donc, pour anticiper tous ces problèmes qui vont se poser et qui peuvent mettre en cause la science elle-même de par son financement, je crois que c'est le moment de commencer une réflexion là-dessus. Évidemment que ce tableau n'est pas complet parce qu'il y a des dimensions et des défis qui sont orthogonaux par rapport aux différentes pièces de ce puzzle. Un d'entre eux étant ce qu'on appelle le Alternative Matrix for Science and Research, c'est-à-dire dans un monde où on investit dans le open access, on ne peut pas laisser l'impact factor être le maître mot qui dirige l'évaluation des scientifiques. Mais ça, c'est un sujet que mon ami Bernard Rentier va aborder, je crois, demain. Il faut penser à d'autres moyens de qualifier l'approche de l'évaluation des résultats de la science et des scientifiques eux-mêmes. Et l'autre, c'est le peer review des papiers scientifiques. Actuellement, il y a plein d'articles qui parlent du bien fondé, du mal fondé, du non fondé du tout, des processus de peer review. Nous-mêmes, à la Commission, on fait une évaluation de propositions qui est semblable à un peer reviewing des projets. Et quand moi je dis ce que ma commissaire précédente me disait, c'est que « you should walk the talk », ça veut dire « vous devez faire ce que vous dites ». Et je propose à mes collègues d'ouvrir leur processus d'évaluation. Le résultat n'est pas toujours très favorable. Les gens me regardent en me disant « le voilà à nouveau qui vient nous faire avec ses théories ». Donc, c'est pas simple dans ce milieu-là. De l'autre côté, il y a la notion de « innovation-friendly science », donc la science qui va donner comme résultat le processus d'innovation, en particulier ce qu'on appelle « open innovation ». Et là, par exemple, une initiative qu'on est en train de lancer s'appelle STARTS, pour Science, Technology and the Arts, et qui vise à intégrer les artistes dans l'innovation qui doit être inhérente et qui est inhérente au processus scientifique. Un exemple très, très parlant par lui-même, c'est le groupe Mercedes, donc le groupe Daimler, qui a utilisé des artistes dans la conception même de leur voiture autonome, la Mercedes F105, 115, un truc comme ça, qui vient d'être présentée au public à Linz en Autriche. Et ils ont utilisé les artistes pour quelles raisons ? Pour un détail très simple que les ingénieurs n'arrivaient pas à régler, c'est qu'il y a, un élément de la sécurité routière qui est le eye-to-eye communication entre le piéton et le conducteur de la voiture. La question est, quand il n'y a plus de conducteur dans la voiture, c'est quoi qu'on regarde ? C'est les phares de la voiture ? C'est le capot ? C'est le gars qui est peut-être avec sa tablette en train d'accéder à Facebook pendant que la voiture l'emmène Dieu sait où ? Donc, la conception, il fallait un regard, je dirais, décalé pour s'adresser à ce problème-là, et Mercedes a utilisé des artistes pour le faire. C'est un exemple d'apport de l'art au processus d'innovation dans la science. Évidemment que dans un scénario comme ça, ce qu'on essaye de faire n'est pas du tout d'aller vers les scientifiques et leur dire comment ils doivent faire de la science. Nous, après tout, nous ne sommes que des fonctionnaires, des humbles fonctionnaires. L'idée, c'est de catalyser un processus de changement culturel. Et ce processus de changement culturel va toucher les scientifiques, va toucher les organisations de recherche et va toucher aussi l'industrie, parce que l'industrie, quand elle embauche des scientifiques pour leur département, elle utilise exactement que les mêmes méthodes d'évaluation de la science qui ne sont pas alternatives. Donc ça, grosso modo, c'est transparent. C'est pour ça que je vous ai dit que quand j'aurai terminé, il sera un peu chargé. C'est notre vision qui est très large. Ça ne veut pas dire qu'on va s'adresser à tous les éléments de cette vision, mais on y réfléchit. Alors, je vous avais dit qu'il y a deux commissaires qui sont particulièrement motivés pour le Open Science. Un, c'est évidemment le commissaire de la science, de la recherche et innovation. Et l'autre, c'est le commissaire de l'économie et de la société numérique. Et ils ont posté ensemble un blog en juin dernier à l'occasion d'une conférence qui a été organisé à Bruxelles sur le European Research Area et qui a eu une session sur Open Science, et ils ont posté, je vous laisse lire, ce blog post qui fait le lien entre la science, l'innovation, la croissance, etc. Et moi, je pense que c'est peut-être la première fois que la Commission vient de cette façon-là ouverte dire publiquement que il y a un rôle pour la science et pour l'ouverture dans un processus de croissance et d'emploi. D'ailleurs, les trois priorités du commissaire Moedas, qui sont les trois O, comme on l'appelle, Open Innovation, Open Science et Open to the World, sont la sublimation du mot ouverture dans un discours politique. Donc, il y a la composante innovation, et l'innovation ouverte, donc l'innovation accessible à tout le monde. Il y a la science ouverte, et puis il y a la dimension internationale, parce qu'on ne peut pas continuer à construire la forteresse Europe, comme nos amis britanniques ont l'habitude de dire. Et il faut être dans un monde qui bouge, dans un monde où il y a d'autres initiatives qui ont lieu ailleurs. Alors, un mot sur notre politique Open Access dans Horizon 2020, qui est bien connue. D'abord, vous savez tous ce qui est Open Access. Il y a la notion de qualité, dans le sens de peer-reviewed scientific publications, et il y a la notion des données scientifiques, mais des données scientifiques en fonction de leur utilisation. C'est pour ça qu'on fait le pont avec les algorithmes, les méthodes et les outils qui est le open source. Pourquoi le open access? Parce que tout un ensemble de raisons, et peut-être pour les publications, il y a plein de raisons sur l'efficacité, l'économie, si est bon ou pas bon pour la société. Je ne vais pas le discuter, je suis moi-même un grand convaincu. Mais ce qui y a au niveau politique, ce qui est la croyance de base actuellement, c'est le rôle que les données scientifiques vont jouer dans ce qu'on appelle « a data-driven economy ». Et ça, c'est un élément que pour moi est fondamental, parce que chaque fois qu'on parle d'accès ouvert aux données, l'industrie vient nous dire « Ah, mais attention, parce que nos concurrents peuvent venir prendre nos données, etc. » À aucun moment, on regarde la situation de l'autre côté, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'industrie se met toujours dans les chaussures du donateur et ne se met jamais dans les chaussures du receveur? Quand nous, on reste persuadés que dans un monde de données scientifiques ouvertes, les premiers bénéficiaires seront justement du côté industriel. Donc il y a toute une problématique dans les données qui rend l'approche de l'accès ouvert aux données beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est pour les publications. Donc, dans Horizon 2020, la situation est connue. Le open access est une obligation qui se décline dans le green et le gold, parce qu'on a suivi l'approche de ne pas avoir aucune religion particulière. Donc, si les gens choisissent le gold, il sera payé dans les fonds du projet. Si les gens choisissent le green, on arrive même à leur donner une infrastructure qui s'appelle OpenAir, qui permet de faire le dépôt de leur papier. On les encourage à déposer toujours ce qu'on appelle data underlying the publications or underpinning the publications pour une question de validation de la recherche scientifique. Et puis, on les oblige à assurer open access to the bibliographic metadata qui est derrière les publications. Donc ça, c'est le mandat qui est très clair dans Horizon 2020 au sujet des publications. On a démarré un petit pilote comme sous-projet de la dernière génération d'OpenAir qui vise à une situation qu'on a constatée et pour laquelle on n'a pas de mesure de la taille ou de l'ampleur de la chose, qui est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vers nous et qui nous ont dit C'est très joli de dire que vous prenez à votre charge les author processing costs dans le modèle de Gold Open Access. Mais et si je publie après la fin de ma bourse, comment est-ce que je vais être payé? Et là, on s'est dit, oui, effectivement, là, il y a un problème parce que nos bourses dans FP7 ou dans Horizon 2020 sont un petit peu comme les pots de yaourt. Quand on le retourne et la date de péremption est passée, on ne peut plus le manger. Dans notre cas, on ne peut plus payer. Donc, on s'est dit, il faut vraiment d'abord essayer d'avoir une idée si c'est une pratique assez fréquente. Les gens nous parlent de 2 à 3 ans après la fin d'un projet, il y a encore des publications qui sortent du travail du projet. Donc, on a créé ce petit pilote qui concerne FP7, donc qui concerne des grants de FP7 qui sont terminés et qui continuent à publier. Et on essaye de ramasser le maximum possible de données pour nous permettre de faire... C'est un petit peu le scientific evidence policy making. Hein. On essaye d'avoir des données pour pouvoir après établir une politique. En ce qui concerne les données, je vais être très bref parce qu'après-demain, vous aurez une collaboratrice à moi qui vous présentera le pilote qu'on a créé dans Horizon 2020 en détail et les premières données qu'on a déjà pu extraire à partir des premières propositions qui ont été soumises. Ici, il y avait plusieurs questions à toucher quand on a conçu le pilote. La première étant, quels sont les domaines thématiques qui vont être couverts par le pilote? C'est-à-dire, quelle partie d'Horizon 2020 qui a un scope, une portée très large, quel domaine d'Horizon 2020 les projets vont participer au pilote? Et là, on s'est dit que la meilleure approche était de ne pas définir ces domaines thématiques au niveau législatif, ça veut dire ne pas le mettre dans la proposition elle-même d'Horizon 2020, puisque là, c'est un texte de loi, ça fait partie de l'acquis communautaire, et qui est virtuellement impossible à modifier. On a décidé de suivre l'approche des programmes de travail, parce que les programmes de travail ont un cycle de 2 ans. Et ça nous permet, après 2 ans d'expérimentation, de faire un fine-tuning des domaines et les élargir ou les réduire ou les modifier pour la période suivante, 2 ans, etc. Et actuellement, on vient de faire d'ailleurs une modification, mais ma collègue vous l'expliquera, du programme de travail 14-15 pour le programme de travail 16-17. On a légèrement adapté, la portée du pilote est plus large. La question subjacente, c'était... Quelles données vont être couvertes par cela? Qu'est-ce qu'on va observer dans les projets qui participent au pilote? Est-ce qu'on va seulement regarder les données qui sont associées à des publications? On va aussi regarder les données de base, ce qu'on appelle le raw data. Quelles données vont être couvertes? Et là aussi, on a trouvé un modèle à travers de la notion de data management. Finalement, l'obligation la plus importante pour les projets qui vont être observés dans le contexte de ce pilote, c'est produire un data management plan, dans lequel ils vont dire quelles sont les données qui vont être récoltées ou qui vont être générées, quels sont les standards qui vont être utilisés pour obtenir les données ou pour les générer, en particulier quelles sont les métadonnées, parce qu'il y a certaines disciplines qui ont des standards assez bien définis de données, et comment ces données vont être exploitées, partagées, s'ils vont être ouverts, s'ils ne vont pas être ouverts, tout en sachant que dans le milieu des données, il y a parfois des raisons qui empêchent que les données soient mises complètement ouvertes. Notre politique étant « as open as possible », as closed as necessary. Donc, c'est une question de se dire la valeur par défaut doit être l'ouverture, mais il y a tout un ensemble de raisons à travers lesquelles on ne peut pas le faire ou on ne doit pas le faire. Et finalement, un autre objectif du pilote est d'augmenter la prise de conscience de la part des scientifiques de l'importance de prévoir des techniques de data management dès le départ dans la conception d'un projet. Et ça, c'est la notion de data management plan. que, par exemple, les Américains, que ce soit le NIH ou la NSF, ont été beaucoup plus loin que nous. Eux, ils demandent un data management plan avec chaque proposition qui est soumise pour l'évaluation. Nous, on n'a pas osé, puisqu'on a un taux de sélection qui est assez bas, et ça reviendrait à augmenter énormément la charge bureaucratique sur les proposants. Donc, on préfère se dire, la meilleure façon de promouvoir cette culture de la valeur des données, c'est de le payer. C'est de dire, voilà, pendant vos premiers 6 mois du projet, vous faites un data management plan et on vous le paye comme on paye tout le reste dans le projet. Donc, l'idée est une approche beaucoup plus soft que l'approche américaine là-dessus. Mais vous aurez tous les détails sur le pilote après-demain, je crois. Tout ce que j'ai dit sur Open Access, sur Data Management, vous pouvez le trouver dans les Participants Portal et dans la différente littérature qu'il y a sur notre site. Il y a pas mal d'autres repositories, je ne sais plus comment on dit en français, et de Data Curation Center qui a des outils de création de Data Management Plan. Donc tout ça sont des adresses web qui peuvent être utiles. Et puis il y a un nombre de projets qu'on a lancés et qu'on est en train de financer et qui ont comme objectif de faire des services, d'être des prestataires de services pour les autres projets, pour les aider dans cette démarche d'ouverture. Voilà, vous avez quelques adresses où vous pouvez vous renseigner. Eh bien, merci beaucoup.
Merci, Monsieur Cotta. On peut prendre une ou deux questions.
Par rapport à la consigne de dépôt en open access des projets financés par l'Europe, quel contrôle y a-t-il du respect de cette consigne ?
Vous voulez dire de open access pour les publications? Ah ben, la consigne n'est pas une... C'est un petit peu comme la politique de Bernard, de la carotte et du bâton. Ça veut dire, l'idée étant que je reste persuadé qu'une politique purement basée sur le bâton ne marche pas. Il faut baser une politique sur la carotte et éventuellement frapper avec le bâton quand l'âne refuse de manger la carotte. Mais... l'idée est de dire que s'il y a une référence au programme, évidemment qu'il y a très peu de moyens qu'on a de savoir si effectivement une publication ressort dans nos projets. Mais, par exemple, à travers d'OpenAir, on a cette information assez facilement. Et donc, on a des statistiques sur les publications qui sont faites ailleurs qu'en open access et qui sortent. Et évidemment, on attire l'attention du projet. S'ils continuent comme ça, ils sont en train de faire une entorse à la réglementation. La politique de la carotte étant de dire, si vous publiez en gold, on vous le paye. Les other processing costs sont des coûts éligibles du projet. Si vous publiez en vert, bon, bah, on vous encourage, on vous met à disposition. Si vous n'avez pas de repository qui soit institutionnel ou de la discipline, bon, bah, il y a OpenAir qui est là pour dépanner. Donc, on essaie d'avoir une approche plutôt dans l'offre des services, y compris de services financiers, puisqu'on paye les other processing costs, plutôt que d'avoir une approche répressive.
Jacques Laffey, je pense que vous avez répondu en partie à ma question. Mais bon, je voulais me réjouir d'abord de voir tout cet open de tous les côtés et cet engouement et cet engagement des commissaires européens dans ce domaine. Mais je ressentais quand même derrière tout ça, à travers les financements qui sont donnés à la fois pour les publications et aussi maintenant pour le data mining, puisque vous venez d'en parler à l'instant, que implicitement, il y avait quand même beaucoup de modèles gold ou de modèles APC ou de modèles de paiement du data mining à des grandes entreprises que tout le monde connaît pour financer ce type de dépenses. Là, vous venez de dire que c'est ouvert au green aussi, mais j'ai l'impression quand même que le modèle gold reste quand même apparemment très dominant, encore que c'est... le terme de gold ne signifie pas grand-chose, mais les modèles avec APC, disons en tout cas pour les publications.
Je ne pense pas. D'après notre vision actuelle, il n'y a pas une domination d'un modèle par rapport à un autre. Il y a beaucoup de gens qui publient en normal, entre guillemets, et qui font le dépôt de leur publication dans le stage 3 dans un repository. Donc, il y a toutes sortes, parce que dans le open access, c'est pour ça qu'on est en train de le débattre aujourd'hui à Bruxelles, il y a plein de modèles qui ne sont ni green ni gold, qui vont de ciel au Brésil, où les Brésiliens ont créé l'éditeur national qui édite tout et qui met tout en open access, jusqu'à des approches de création de nouveaux journaux qui sont dès le départ open access, etc. Donc il y a tout ou l'approche du CERN, de Scope et Scope 3. Donc il y a toute une panoplie de modèles ou des modèles basés sur le paiement des services qu'on appelle le premium et qui peuvent être utilisés. Nous, on a décidé, et je suis d'accord avec vous, que c'est pas sustainable comme position, de dire notre religion, c'est de ne pas en avoir une. À un moment donné, il va falloir dire si on est juif, chrétien ou musulman. Donc, il va falloir choisir une religion. Mais pour l'instant, on n'a pas d'évidence suffisante pour dire c'est gold, c'est green, c'est premium, c'est whatever. Donc, on n'a pas ces données et donc on préfère continuer à observer ce qui se passe, pas seulement en Europe, mais partout.
Nous avons l'habitude de raisonner sur les questions d'édition scientifique à partir du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. On le sait, les éditeurs, pour une grande partie d'entre eux, sont aussi des entreprises et un regard différent, celui d'un analyste financier, va nous montrer un petit peu comment sont perçues les questions d'open access d'un autre point de vue.